Alors, vous l'avez peut-être vu passer cet été, le 31 juillet dernier, le pape Léon XIV a annoncé qu'il allait proclamer docteur de l'Église le cardinal Newman. C'est le 38e docteur de l'Église. C'est le premier. Alors, en fait, il faut savoir que c'est un acte qui n'est pas fréquent. Le pape Paul VI en a déclaré deux de mémoire. C'était Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila. Le pape Jean-Paul II, qui a autant béatifié et canonisé de saints, n'a proclamé qu'un seul docteur de l'Église, qui était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le pape Benoît XVI, je crois de mémoire, c'était deux. Alors je sais qu'il y a Hildegard de Bingen et l'autre, je crois que c'est Jean de Tolède. Et puis même le pape François n'en a proclamé que deux aussi, qui étaient Grégoire de Narek et le dernier en date. Alors c'est le dernier en date, mais c'est très amusant. Saint Irénée de Lyon, qui n'était pas docteur de l'Église, et que vous avez, pour ceux qui font Fidéo, à lire en premier texte choisi par le père Luc Mellet. L'autre originalité de cette proclamation-là, alors les docteurs de l'Église, pour vous situer rapidement, ça a commencé au XIIIe siècle, avec quatre pères de l'Église, saint Augustin, saint Ambroise, saint Jérôme et saint Grégoire le Grand, et puis petit à petit, ça s'est étoffé. L'originalité du cardinal Newman, il tient aussi au fait qu'il soit récent. En fait, il n'y a que deux docteurs de l'Église au XIXe siècle, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et donc maintenant, enfin prochainement, puisque le pape a annoncé lundi que ce serait le 1er novembre, la date de sa proclamation. Donc nous allons avoir deux docteurs de l'Église du XIXe siècle. Donc c'est assez intéressant parce que c'est proche de nous dans nos problématiques et dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors 30 minutes, c'est un peu court pour vous présenter l'amplitude déjà de la vie et puis de l'œuvre du cardinal Newman. Donc je vais essayer de me concentrer sur la raison pour laquelle il est aujourd'hui docteur de l'Église, ou demain il sera docteur de l'Église. Vous connaissez sûrement le cardinal Newman, donc je vais commencer par l'endroit où il ne l'est pas, mais qui est l'endroit où il est le plus connu. Vous connaissez peut-être sa lettre au duc de Norfolk, qui est un catholique notoire anglais. En fait, il se trouve qu'à l'époque est proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Et les anglicans, évidemment, se rebiffent contre cette proclamation-là en se disant « Mais en fait, finalement, on ne peut pas être catholique et un bon citoyen puisque l'autorité suprême est le pape. » Et donc, comme la loyauté est soumise aux proclamations du pape, eh ben, dans l'anglicanisme, ça va faire un grand débat. Et lui, il va expliquer déjà que, d'une part, que l'infaillibilité pontificale, donc proclamée à Vatican I, concerne la foi et les mœurs, et il rappelle que c'est que quand il y a une proclamation ex cathedra. Il faudrait compléter cette affirmation-là par la valeur aussi des déclarations conciliaires, mais peu importe, sur l'infaillibilité, je veux dire. Hein. Mais là, on reste dans le thème du cardinal Newman. Et lui, qu'est-ce qu'il va affirmer ? Donc, c'est ce texte qui est génial, hein, il est assez accessible pour le coup. Il va insister sur le rôle de la conscience. Le rôle de la conscience comme norme suprême de la personne humaine. Obéir au pape ne dispense pas, écrit-il, de la responsabilité individuelle. Là, le catholique doit suivre sa conscience éclairée, même face à l'autorité. Alors, il a une formule célèbre que je vous donne, qui dit, si, je le cite là, si je devais porter un toast après le repas, ce serait d'abord à la conscience et ensuite au pape. Il a aussi cette autre formule qui est magnifique. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Alors attention, la conscience, c'est pas juste sa petite détermination personnelle selon ses goûts. Non, la conscience, c'est l'endroit où Dieu Trinité investit notre personne pleinement. Vous avez, alors pour le coup, le catéchisme de l'Église catholique, qui d'ailleurs cite Newman et la phrase que je vous ai donnée là, le catéchisme de l'Église catholique a une page sur la conscience à laquelle je vous renvoie. Vous l'avez sur Internet, vous tapez « Conscience catéchisme de l'Église catholique » et vous le trouverez, ou alors vous ouvrez votre catéchisme catholique, ce qui est encore mieux, et puis vous la trouverez. La conscience, c'est l'endroit où Dieu parle, c'est-à-dire où le Verbe de Dieu, le Christ, parle, où l'Esprit infuse. C'est vraiment à cet endroit-là, c'est en nous à cet endroit-là. Donc ce n'est pas simplement une opinion. Donc en d'autres termes, conclut-il, un catholique anglais peut être fidèle au pape dans l'ordre spirituel, tout en restant loyal à son pays dans l'ordre temporel. En grosso modo, il rejette l'idée que la double allégeance serait impossible. Et ce qui est valable évidemment pour la reine d'Angleterre, parce que c'était Victoria à l'époque, est valable tout à fait pour nous avec le gouvernement actuel, dans la limite évidemment de légitimité des lois bioéthiques, enfin, on rentre dans d'autres débats, mais voilà, on peut avoir cette double allégeance. L'obéissance catholique, écrit-il, n'est pas une servilité, c'est une action libre et éclairée par la raison et la conscience, et donc l'infaillibilité pontificale, n'est pas une menace pour la société civile, mais une garantie de vérité doctrinale. Voilà. Et donc, Rien que cette lettre, ce serait déjà une très belle raison d'en faire un docteur de l'Église, parce que cette primauté de la conscience, elle n'a pas toujours été affirmée aussi clairement dans l'Église, et il apporte quelque chose. Mais c'est pour une toute autre raison que le pape le proclame docteur de l'Église. Alors avant de rentrer vraiment dans sa thèse, je vais vous situer un tout petit peu le cardinal Newman, pour vous expliquer un peu. Alors vous avez dans votre feuillet, à page 2, vous avez un petit résumé de sa vie, je vous ai fait un petit condensé. Alors ce feuillet, c'est les feuillets du CEDIF qu'on imprime tous les mois, on en envoie un, ceux qui sont abonnés à la newsletter le reçoivent. Tous les mois, on change de thème, on aborde des thèmes très différents, c'est l'idée, c'est de vous donner un petit éclairage sur une problématique, une personnalité, etc. Donc il a été envoyé en septembre, quand j'ai appris évidemment la nomination comme docteur de l'Église, j'ai souhaité faire un feuillet, et c'est sur cette base-là qu'avec l'évêque, nous avons décidé d'en faire un enseignement aujourd'hui. Alors, le cardinal Newman. Le cardinal Newman naît en 1801, il est l'aîné d'une fratrie de 6. Il est d'une famille anglicane, mais peu pratiquante. Son père est Whig. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez un peu le contexte politique de l'époque. En gros, les Whigs, c'est ceux qui prônent plus le Parlement que le roi. C'est ceux qui prônent plus un détachement avec le dogme qu'une fidélité au dogme, par exemple. Donc on va dire que c'est un chrétien libéral. Le mot libéral est très important parce que c'est le mot qu'emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup cardinal Newman dans l'essai qu'on va étudier comme étant un endroit de ce qu'il appelle, lui, de corruption. Mais je vous expliquerai ça après. Et alors, il vit différentes expériences spirituelles. Il va avoir vraiment plusieurs expériences spirituelles. Mais le fait est, je vous ai parlé des détails, le fait est qu'il est ordonné prêtre anglican en 1825. Et sa grande passion, c'est de lire les Pères de l'Église. Alors, ceux qui font Fideo Credo, avec le père Luc Mellet, notamment les trois premières rencontres, où vous allez beaucoup croiser les pères de l'Église. Enfin, vous allez les croiser dans les 10 rencontres, en soi. Mais le père Luc Mellet, introduisant l'ensemble, il vous présente... D'ailleurs, j'avais une question d'un cénacle me demandant qu'est-ce que ça voulait dire SC, dans les références qui étaient dans les cours. SC, c'est une collection qui s'appelle les Sources chrétiennes, et c'est une collection majeure pour nous, les théologiens. C'est que c'est la collection qui collige un peu tous les écrits des pères de l'Église et qui sont traduits en français. Donc voilà, les sources chrétiennes. Eh bien, le cardinal Newman est un grand, grand lecteur des Pères de l'Église. Et cela le conduit à deux choses. D'une part, à confesser la succession apostolique. Alors attention, hein, on ne parle pas forcément de la succession apostolique dans l'Église catholique, mais ça en approche beaucoup. Et d'autre part, à chercher toutes les manifestations, pour lui ça va être ça sa quête, toutes les manifestations de fidélité, de continuité de foi et de pensée à travers les siècles. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de voir le développement de la doctrine chrétienne dans toute sa cohérence, sans rupture. Voilà, c'est vraiment ça. Il va adhérer à un mouvement dont je ne vous parlerai hélas pas aujourd'hui. En fait, il est l'un des fondateurs de ce mouvement qui s'appelle le mouvement d'Oxford. En Angleterre, dans l'Église anglicane, il y a la High Church et la Low Church. En fait, vous en avez trois. Vous avez la Broad Church, mais on va laisser tomber. La High Church et la Low Church. La High Church, c'est ceux qui sont plutôt du côté des ecclésiastiques, des universitaires, qui promeuvent une sorte de continuité, qui est très centrée sur aussi la liturgie, l'autorité des pasteurs, etc. La Low Church, c'est plutôt des personnes qui sont plutôt dans la participation, dans le dogme, oui, mais pourquoi pas quelques transgressions, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, je vous caricature un peu les choses, mais ça vous donne un peu le topo. Et lui, il fait partie de la High Church. Et avec ce mouvement d'Oxford, ils vont publier ce qu'on appelle des tracts. Ils vont faire ça toutes les semaines, je crois qu'ils publient un tract. Et je crois que le cardinal Newman, il en publie 90. Et au terme du 90e, d'ailleurs, il est banni de l'Église anglicane. Parce qu'en fait, il devient beaucoup trop catholique dans sa façon de penser. Plus il recherche la continuité, plus il se rend compte, et ça va être ça le déclencheur, c'est son tract numéro 90 dit cela. Il y a une feuille de papier à cigarette entre... Alors, il n'utilise peut-être pas le mot papier à cigarette. Hein. Il n'y a rien entre la pensée catholique et les fondements de l'Église anglicane. Les articles concrets, hein, historiques, qui ont constitué la fondation de l'Église anglicane. Et il dit, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même... Pourquoi il y a eu rupture ? L'Église anglicane le rejette. Lui fait un cheminement progressif vers l'Église catholique. Et il y est reçu en 1845, l'année où il publie le fameux essai dont nous allons parler juste après. Dans la vie de John Henry Newman, il a cette belle expression « entrer dans l'Église catholique hein. ». Ce fut pour moi comme entrer dans un port après une traversée houleuse, mon bonheur est sans interruption. Si on pouvions tous dire ça à chaque fois que nous entrons dans une église. Donc, il publie cette année-là l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne, qu'on a traduit en français par essai sur le développement du dogme. On peut discuter de la traduction, mais c'est grosso modo la même chose. Hein. Je finis en quelques dates rapides. Il est ordonné prêtre en 1847. Lui est marqué par la figure de Saint Philippe Neri, le fondateur de l'oratoire en Italie. Il crée donc le premier oratoire dans son pays. Il est nommé cardinal en 1879 par le pape Léon XIII, celui qui a lancé la doctrine sociale de l'Église dont a parlé Monseigneur juste avant. Il existait des textes avant, hein, mais la première grande encyclique, c'est Léon XIII, Rerum Novarum. Il est mort le 11 août 1890, et il est, alors là, ça va très vite. Il est béatifié par Benoît XVI en 2010, il est canonisé par le pape François en 2019, et 6 ans plus tard, il est docteur de l'Église. Donc vous voyez, ça va. Une fois qu'on a bien étudié son œuvre et sa vie, eh ben, il est saint et docteur de l'Église très, très bien. Maintenant, on va entrer dans le vif de sa pensée. Alors c'est toujours à grandes enjambées, hein, je vous prie de m'excuser pour ça, mais le temps est assez court. On va parler de l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne, donc ce livre qui publie en 1845, l'année même de sa conversion. Vous allez entendre beaucoup de choses qui sont similaires à toute la dernière partie de l'exposé de Monseigneur sur le magistère. On va essayer d'en voir aussi les conséquences pour la société actuelle, enfin pour notre vie, nous, dans la société dans laquelle on vit. Alors le contexte de l'œuvre, vous l'avez compris, c'est John Henry Newman, il est proche à ce moment-là de l'Église catholique. Il est en chemin. Quand il écrit son essai, il n'est pas encore rentré dans l'Église, mais il est sur le point, il a fait tout son cheminement. Et son enjeu, c'est d'expliquer comment les doctrines chrétiennes peuvent évoluer dans le temps, parmi les sociétés différentes, sans trahir leur essence originelle. Voilà, c'est ça la thèse de son livre. C'est aussi d'ailleurs, ça c'est un aparté, mais c'est aussi un magnifique témoignage de foi, cette œuvre. Il se met dans la réflexion, vraiment, il met de lui dans sa réflexion et son cheminement. Donc en plus, c'est très beau à lire parce qu'on voit un chrétien qui chemine, quoi. La thèse centrale, c'est que Newman soutient que la doctrine chrétienne n'est pas figée, elle se développe organiquement, le mot est très important, organiquement, au fil du temps. Alors, à travers la révélation originale transmise dans la Bible, vous l'avez vu, ceux qui ont fait fidèle au Créateur l'ont vu, hein, au peuple hébreu, tout d'abord, c'est la première alliance, et puis, évidemment, pleinement, avec le Christ, Verbe de Dieu, nouvelle alliance. D'ailleurs, il fait des comparaisons montrant que, déjà, dans la révélation chrétienne, il y a cette espèce de processus d'évolution dans la révélation de Dieu lui-même, qui ne trahit rien quand on arrive au Christ. Le Christ ne trahit rien des promesses de l'Ancien Testament. Il les accomplit. Eh ben, c'est le même principe, en fait, dans son essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Ce développement, selon lui, n'est pas une corruption. C'est le mot qu'il emploie, c'est vraiment celui-là, en anglais. Le mot de corruption, c'est un mûrissement de la vérité contenue dès l'origine. C'est un mûrissement de la vérité contenue dès l'origine. Il a cette phrase admirable, « Dans un monde supérieur, il en va autrement. Mais ici-bas, vivre... c'est changer. Et être parfait, c'est avoir souvent changé. La vérité révélée ne s'altère pas, elle se déploie dans le temps sans perdre son identité. Entre nous, soit dit, c'est valable pour notre vie singulière aussi. Hein. Il faut beaucoup changer pour être saint. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'où l'importance de fréquenter les sacrements, la confession, l'Eucharistie. C'est des endroits où Dieu nous renouvelle, en fait. Donc pour Newman, l'évolution des dogmes dans l'histoire de l'Église, elle est légitime si... elle est fidèle à l'esprit de la tradition apostolique. Alors, il prend une analogie. C'est une analogie que je trouve très, très éclairante, évidemment. Une analogie, ce n'est pas une comparaison. Hein. Une comparaison, c'est on compare les mêmes termes, c'est égalité. Une analogie, c'est qu'on parle de deux plans différents, quand même. C'est une comparaison, mais qui n'est pas valable sur tous les domaines. Mais elle permet d'expliquer quelque chose à un autre plan, qui est ici le plan spirituel. Parce que c'est évidemment l'Esprit Saint aussi qui agit dans l'histoire de l'Église, dans le magistère et dans la tradition. Il prend l'exemple d'un chêne qui grandit à partir d'un gland. C'est tout simple, hein. Encore fallait-il l'exprimer. L'arbre est certainement bien plus grand et bien plus complexe que le gland, mais il est le même organisme. Le même organisme. D'ailleurs, on pourrait actualiser ça en parlant de la vie humaine, hein, entre l'embryon et la personne humaine. C'est aussi un éclairage qui pourrait nous donner, si on devait actualiser, pour reprendre la question de Pascal tout à l'heure, on peut imaginer aussi d'envisager d'autres réalités que n'avait pas le cardinal Newman à son époque à partir de cette pensée-là. Donc pour Newman, si l'on accepte le principe d'un développement, développement doctrinal, seule l'Église catholique, pour lui, à conserver et fait mûrir la doctrine chrétienne de manière cohérente et fidèle. Toutes les autres traditions sont faites de rupture, de remise en cause, de négation de choses passées. Pour lui, ça c'est vraiment important. Alors, il va définir 7 critères. 7 critères qui, pour lui, sont garants de l'authenticité, et je vais vous les expliquer. Ça pourrait faire l'objet d'un petit travail en petits groupes dans les paroisses, par exemple, pour recomprendre la tradition autrement, parce qu'il y a la tradition telle que l'a définie Dei Verbum et les conciles et les grands papes, mais il y a aussi ces principes-là qu'on peut essayer de voir au quotidien et qui, pour chaque pensée d'aujourd'hui, chaque pensée moderne, les passer au crible de ces 7 critères. Alors, ces critères visent à juger si une doctrine développée reste cohérente avec la foi primitive. Alors, je vous citerai un petit exemple, c'est un exemple que lui donne. Alors, premier critère, vous l'avez, la préservation de l'idée originale, sa conservation du modèle. En fait, le mot qu'il emploie, très précisément, c'est la conservation du type. Le type, c'est très important pour ceux qui ont fait fidéo Bible, peut-être que ça résonne encore un petit peu en vous. Le type, c'est les figures de l'Ancien Testament, du Premier Testament, qui annoncent le Christ. Elles contiennent à la fois la présence du Christ et en même temps elles annoncent le Christ. Le type, c'est un mot qu'emploie saint Paul. Il dit, voilà, le rocher sur lequel tape Moïse et dont sort l'eau pour le peuple et qui désaltère le peuple, c'est le Christ. Il dit ça à un moment. Et en fait, il utilise le mot type. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Fidéo Bible. Donc, quel est l'enjeu de cette idée? C'est de dire qu'un développement véritable conserve l'identité essentielle de la doctrine initiale comme un organisme qui grandit sans changer de nature. Là, on retrouve son exemple du gland et du chêne. Alors, un exemple. Par exemple, il montre que le dogme trinitaire développe la foi apostolique en Jésus-Christ comme fils de Dieu sans la dénaturer. Ça préserve l'affirmation que le Christ est fils de Dieu et Dieu lui-même, comme montrent les Écritures, et sans la dénaturer. On arrive peu à petit, par cheminement, au dogme de la Trinité. C'est un critère. Attention, on peut toujours extrapoler un critère. Chez Newman, l'important, c'est d'avoir toujours les 7 critères ensemble. Deuxième critère, ce qu'il appelle la continuité des principes. L'idée, c'est très simple, c'est que les principes de base, bibliques, théologiques, spirituels, demeurent vivants et cohérents à travers le temps. Alors là, il prend un exemple qui est très beau, parce que Monseigneur disait tout à l'heure, on n'a rien sur l'Eucharistie, dans le credo, mais on n'a rien aussi sur la Vierge Marie. La Vierge Marie, les dogmes sur la Vierge Marie arriveront au Concile d'Éphèse en 451, donc on est un siècle plus tard. Eh bien, lui, il dit, la doctrine mariale, elle découle naturellement, logiquement, du principe de l'incarnation et de la place unique qu'occupe la Vierge Marie comme mère de Dieu, comme mère de Jésus, Dieu. Donc elle devient Théotokos, mère de Dieu, au Concile d'Éphèse. Donc pour lui, il y a une continuité des principes. Et en même temps, si on reprend le premier point, on a la préservation de l'idée originale. On a la préservation que le Christ est fils de Dieu, comme l'affirment les Écritures. Vous voyez, là, on peut conjuguer les principes. Troisième principe, le pouvoir d'assimilation. Alors là, ça peut répondre un petit peu à la question de Pascal tout à l'heure, c'est la capacité à intégrer de nouveaux contextes. L'idée, c'est que la doctrine chrétienne peut intégrer de nouveaux contextes, de nouvelles cultures, de nouvelles philosophies, donc encore aujourd'hui, sans perdre son essence. Comme un organisme qui assimile des éléments extérieurs pour grandir, comme le chêne intègre de l'eau, intègre de l'humus pour grandir, voilà. De la terre, enfin, tout ce que l'on sait, des vers de terre, enfin, tout ce qu'on sait qui est important. Là, je parle sous la gouverne de monsieur le responsable de l'eau de Renault, de l'écologie, mais voilà, tous ces organismes qui viennent nourrir la plante. Là, il utilise un exemple très simple, c'est l'usage de la philosophie grecque par les pères pour exprimer la foi chrétienne. Ceux qui feront fidèle au credo vont être confrontés à un terme qui ne vient pas de la Bible, mais de la philosophie grecque, qui est devenue théologique, et qui est revenu dans la nouvelle traduction du credo, consubstantiel. Vous allez beaucoup l'étudier, donc je n'y reviens pas. Mais voilà, la tradition a intégré la culture grecque. Alors après, il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Il y a eu des courants au XXe siècle qui ont voulu intégrer un peu n'importe comment des courants philosophiques, notamment asiatiques, parce qu'il fallait traduire, il fallait dire que la transsubstantiation, finalement, en Asie, ils ne savent pas ce que ça veut dire, parce qu'ils n'ont pas la substance au sens aristotélicien, donc grec, vous voyez, c'est très grec comme mot, il fallait changer. Le pape Benoît XVI a fait un discours qui est, pour moi, le meilleur de ces dernières années, c'est au Bernardin, il a été cité tout à l'heure, où il parle, en fait, de l'importance qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter que le Christ se soit incarné aussi dans un contexte de l'époque qui était grec, et que c'est un choix de Dieu, quoi. Donc voilà, je résume vraiment très vite. Mais en tout cas, on peut quand même, avec prudence, avec discernement, et dans la continuité des principes, et en préservant l'idée originale, toujours pareil, on peut assimiler de nouvelles pensées. Et c'est tout le travail des théologiens aujourd'hui, à Rome et partout dans le monde. Quatrième principe, c'est marqué déploiement logique. Alors la logique est très importante pour Newman. Il a un côté très philosophique. Là, c'est la succession logique. Voilà. Le développement procède par étapes rationnelles. C'est important parce que on a tendance, foi, raison, on a l'encyclique du pape Jean-Paul II, évidemment, là-dessus, hein, qui date de 95 ou 96, je ne sais plus, enfin, milieu des années 90. Mais déjà, le cardinal Newman, à l'époque, disait que le développement procède par étapes rationnelles. C'est-à-dire qu'une idée en entraîne naturellement, logiquement, une autre, dans un ordre intelligible, compréhensible pour la raison humaine. C'est un principe de non-contradiction, il n'y a pas de contradiction interne. C'est très important, aussi qu'au plan philosophique, il y ait cette continuité. Ce n'est pas juste des dogmes qui naîtraient out of the blue, comme ça, par l'opération du non-Saint-Esprit. Voilà. Et donc, un exemple, il cite cet exemple-là, de la foi en la divinité du Christ découle logiquement la définition de la Trinité. Bon, il reprend un peu le même exemple que le premier, en le déplaçant dans la dimension logique. Cinquième principe, l'anticipation de l'avenir. Une idée contient en germe ses développements futurs qu'on peut déjà pressentir. Une idée contient en germe, une idée de la révélation biblique, une idée ou une affirmation biblique, contient en germe ses développements futurs qu'on peut déjà pressentir dans l'affirmation initiale. Exemple, c'est l'exemple qu'il prend, hein, et il ne faut pas oublier d'où il vient. Dès les évangiles, la confession de Pierre, tu es le Christ, et la réponse du Christ à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévendront pas, annonce la primauté de Rome. Voilà, selon lui. Ce principe-là, il est déjà présent dans le Premier Testament, puisque le Concile Vatican II, alors dans Dei Verbum 14 à 16, il est question de l'Ancien Testament. Et notamment dans le numéro 16, il est dit que tous les livres de l'Ancien Testament préfigurent le Christ, dans leur ensemble. Là aussi, pareil, toute affirmation d'écriture préfigure le développement du dogme qui vient après. Il y a une analogie là-dessus. Donc, anticipation de l'avenir. Sixième principe, la conservation du passé. Un vrai développement éclaire, approfondit et confirme ce qui était cru auparavant au lieu de l'abolir. Là, on retrouve vraiment un principe du Christ, hein. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est pareil, c'est là-dessus que vraiment il y aura des frottements pour Cardinal Newman avec la tradition anglicane dans ses choix après d'aller plutôt vers telle ou telle théorie qui viennent contredire en fait le passé. Lui, il va dire, ah non, 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 on ne peut pas en fait. On ne peut pas, ça fait partie des sept critères. Et il prend l'exemple, les conciles christologiques, alors ceux qui font Fideo Credo cette année le verront amplement, n'ont pas remplacé la foi primitive, ils l'ont expliqué et ils l'ont même protégé, dit-il. Les conciles christologiques ont protégé la révélation biblique. Et enfin, dernier critère, la vigueur durable. Alors ça, j'aime bien ce vitalité durable, vigueur durable. J'aime bien, c'est assez gaillard, je trouve, comme critère. C'est capacité à... Non, mais gaillard, pas au sens grivois. Capacité à survivre et à s'imposer dans le temps, en fait. Alors, pour le définir très simplement, ce qui est un développement authentique perdure, s'enracine et nourrit la vie de l'Église sur la durée, contrairement aux innovations passagères. Et Dieu sait qu'il y en a eu dans l'Église, notamment dans l'Église du XXe siècle, qui a vu beaucoup la modernité surgir avec force, la sécularisation s'imposait avec force et avec parfois des positionnements de prêtres, éventuellement d'évêques et de beaucoup de laïcs, hein, on n'est pas en dehors de ça aussi, voilà, dans des théories à droite, à gauche, politiques, les grands soirs, les petits matins et autres, quoi. Ben, lui, il dit non, en fait, enfin oui, à condition que ce ne soit pas une innovation passagère, que ça s'enracine dans le temps et que ça respecte les six autres principes avant. Alors lui, il prend un exemple beaucoup plus élevé. Il dit simplement que le dogme de la Trinité proclamé au IVe siècle reste central aujourd'hui dans la foi chrétienne. La preuve en est, nous faisons Fideo Credo. Donc c'est la preuve d'une vigueur durable. Voilà. Alors je vous l'ai dit en introduction, mais il est toujours possible de corrompre le développement de la doctrine. Corrompre, hein, le mot corruption, c'est-à-dire déformer, enfin amplifier, déformer, absolutiser. Un des principes, c'est la concordance des sept principes qui font la grandeur de l'édifice newmanien. Ces sept critères permettent à Newman de montrer que les doctrines catholiques ne sont pas des inventions tardives, mais des développements organiques, logiques et fidèles à la révélation chrétienne. Alors en conclusion, vous avez vu que je suis allé un petit peu, ça, c'est vraiment introduire Newman en si peu de temps, c'est une gageure. Hein, donc je vais essayer quand même. Alors le livre est dense, mais en fait il se lit pas si difficilement que ça. C'est pas... Il y a des passages ardus, mais ça peut, avec ce que je vous ai donné, en tout cas, vous pourriez, si vous en avez envie, rentrer dans son œuvre. Parce qu'il est évident qu'on ne se forme pas avec un topo comme ça. On a des quelques clés, mais on se forme que quand on prend le temps de rentrer dans une œuvre. C'est ça qui nous change. Là, ça vous donne des éclairages cérébraux, mais si on veut se former, il n'y a pas le choix, il faut rentrer dedans. Vous avez le droit de ne pas rentrer dans la pensée de Newman, mais si vous avez envie, vous avez des clés. Je vais juste vous résumer en 5 points. Comme ça, c'est les 5 points qu'il faut retenir de ce petit exposé. 1. L'essai de Newman est une réflexion sur la tradition chrétienne. 2. La doctrine chrétienne fidèle se développe avec le temps. Je vous ai renvoyé dos à dos les modernistes et les fixistes. Ce que, en fait, lui, il appelle les libéraux. Alors, le libéralisme en Angleterre, ce n'est pas exactement le libéralisme comme en France. Mais voilà. Mais donc, c'est pour ça que j'ai mis modernistes et conservateurs. Il les renvoie dos à dos. C'est-à-dire, il y a ceux qui refusent le Concile Vatican II. Et puis, il y a ceux qui. Vraiment, j'y vais à grandes enjambées. Hein, et il y a ceux qui pensent que l'Église est née avec Vatican II. Enfin, on a les deux, quoi. Et donc, il faut revenir à cette fidélité, à ces 7 critères, à cette continuité dans le temps. 3, donc, la doctrine chrétienne se développe avec le temps. 3, ce développement est organique et logique. Ce n'est pas une trahison ni une corruption. Dès lors qu'il y a rupture, ça sent mauvais, dit Newman, traduit en français contemporain. 4e point, l'Église catholique est le cadre légitime de ce développement du fait de sa cohérence et de sa continuité sans rupture. C'est la seule tradition chrétienne qui n'a pas de rupture. Mais évidemment, pour nous... Évidemment, lui, il parle d'organique et logique. Pour nous, il faut se rappeler aussi l'action de l'Esprit-Saint. C'est quand même lui le principe organisateur. Et 5, et ça, c'est le petit point qui ouvre à beaucoup de choses, cet ouvrage, évidemment, le pape... Je vous ai pas lu la citation du pape Léon XIV. Quand il a annoncé qu'il allait le proclamer docteur de l'Église, il a dit « Je conférerai le titre de docteur de l'Église à Saint John Henry Newman, qui contribua de manière décisive au renouvellement de la théologie et à la compréhension de la doctrine chrétienne dans son développement. » C'est vraiment pour ça. Voilà. Et bien parce que, en fait, il se trouve que bien avant cette proclamation, et c'est mon 5e point, cet ouvrage marque l'histoire de l'Église. Alors, il le marque parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui vont s'engouffrer dans cette brèche. Je pense, moi, celui qui me revient tout de suite, c'est, mais vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est Yves Congar qui a écrit un livre qui s'appelle Tradition grand T sans S et Tradition petit t avec un S. Donc, il y a déjà ce rapport entre la grande tradition, le magistère, etc., le développement du dogme et toutes les traditions. Mais évidemment, la pérennité, la postérité de l'œuvre de Newman, elle se trouve surtout dans Vatican II, en fait. Il anticipe, du fait, la vision de Vatican II, qui reconnaît que la tradition progresse sans cesse. Et là, je cite Dei Verbum, numéro 8. « La tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. » Je redis cette phrase. « La tradition qui vient des apôtres, progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. » Voilà, donc, Monseigneur a parlé de Dei Verbum longuement ce matin. Je conclue sur Dei Verbum, la boucle est bouclée. Merci.
Nous poursuivons dans quelques instants avec quelques citations et prières du cardinal Newman. Et je vous propose, pour terminer cette présentation du cardinal Newman, quelques citations. La sainteté. La sainteté, voilà le grand but. C'est un combat et une épreuve. L'Église. Ce n'est pas l'Église qui impose aux fidèles la foi, mais c'est la foi qui les oblige à accepter l'Église. La vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés une fois tout au long de notre vie. Le Christ nous appelle. Il nous appelle toujours plus avant, de grâce en grâce, de sainteté en sainteté. Être chrétien est l'un des dons les plus merveilleux et les plus impressionnants qu'il y ait au monde. L'homme est son créateur. Qui que tu sois, Dieu te considère individuellement. Il t'appelle par ton nom. Il te voit et te comprend pour toi-même, lui qui t'a fait pour toi-même. Tout est grâce. Que nous prenions l'habitude de regarder tout ce que nous possédons comme un don de Dieu, accordé sans être mérité, et à nous renouveler jour après jour par sa seule miséricorde. Mettre Dieu au cœur de nos actions. Tout ce que nous faisons doit donc être approuvé de son sceau et de sa signature. La parole de Dieu. Il n'est pas un passage dans l'histoire de notre Seigneur et Sauveur qui ne soit d'une profondeur insondable et qui ne propose une matière inépuisable à la méditation. Et voici une des prières les plus connues du Saint Cardinal Newman. Ô Jésus, aide-moi à répandre partout ta bonne odeur, partout où je passe. Inonde mon âme de ton esprit et de ta vie. Envahis-moi tout entière et rends-toi maître de tout mon être, afin que ma vie soit une émanation de la tienne. Éclaire en te servant de moi et prends possession de moi de sorte que toute personne que j'approche puisse sentir ta présence en moi. Qu'en me regardant, ce ne soit pas moi qu'on voit, mais toi en moi. Demeure en moi, ainsi je resplendirai de ta splendeur et je pourrai servir de lumière pour les autres. Mais cette lumière aura sa source uniquement en toi, Jésus, et il ne viendra pas de moi le plus petit rayon. Ce sera toi qui éclaireras les autres en te servant de moi. Suggère-moi la louange qui te plaît le plus, illuminant les autres autour de moi. Que je ne prêche pas en paroles, mais par l'exemple, par l'élan de mes actions, par l'éclat visible de l'amour que mon cœur reçoit de toi. Amen. Et une dernière prière, mon Dieu, éternel Paraclet, je t'adore. Mon Dieu, éternel Paraclet, je t'adore, lumière et vie. Tu aurais pu te contenter de m'envoyer du dehors de bonnes pensées, la grâce qui les inspire et les accomplit. Tu aurais pu me conduire ainsi dans la vie, me purifiant seulement par ton action tout intérieure au moment de mon passage dans l'autre monde. Mais, dans ta compassion infinie, tu es entré dans mon âme dès le commencement. Tu en as pris possession. Tu en as fait ton temple. Par ta grâce, tu habites en moi d'une manière ineffable. Tu m'unis à toi et à toute l'assemblée des anges et des saints. Plus encore, tu es personnellement présent en moi, non seulement par ta grâce, mais par ton être même, comme si tout en gardant ma personnalité, j'étais en quelque sorte absorbé en toi dès cette vie. Et comme tu as pris possession de mon corps lui-même dans sa faiblesse, il est donc aussi ton temple. Vérité étonnante et redoutable. Ô mon Dieu, je le crois, je le sais. Puis-je pécher quand tu es si intimement avec moi? Puis-je oublier qui est avec moi, qui est en moi? Puis-je chasser l'hôte divin par qui l'abhorre plus que tout la seule chose au monde entier qui l'offense, la seule réalité qui ne soit pas sienne, mon Dieu. J'ai une double sécurité contre le péché. D'abord, la crainte d'une telle profanation en ta présence, de tout ce que tu es en moi, et ensuite, la confiance que cette présence même me gardera du mal. Dans les épreuves, et la tentation, je t'appellerai. Grâce à toi-même, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi soit-il. C'était deux prières du cardinal Newman. Ô Jésus, aide-moi à répandre partout ta bonne odeur, partout où je passe. Et mon Dieu, éternel Paraclet, je t'adore.